Deutsche Welle, Économie et Développement.
Un bip et c'est parti. Notre correspondant à Kigali nous invite à prendre le bus dans ce numéro grâce à un moyen très simple, une carte à puce. Embarquement dans un instant. Chômage de masse, entrave à la production agricole, coupure d'eau et d'électricité, l'occupation israélienne des territoires palestiniens pèse lourdement sur la vie des populations locales. C'est ce que dénonce la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Vous en saurez plus dans la seconde partie de ce magazine. C'est Claire-Marie Kostmann au micro, bienvenue. Depuis 3 mois à Kigali, plus besoin de monnaie pour prendre le bus. Il suffit d'une carte à puce. Un pas de plus vers la démonétisation de l'argent en vogue au Rwanda. Le pays se veut une figure de proue des avancées technologiques afin de moderniser le pays. Mais cette carte à puce a aussi engendré des conséquences sociales non négligeables. Enquête signée Étienne Gattanasi, notre correspondant sur place.
Pour ceux et celles qui ont déjà utilisé les transports publics à Kigali, la capitale du Rwanda, le son à l'entrée des bus n'est pas étrange. La carte à puce ou le tap and go card placé sur un boîtier entre de plus en plus dans les habitudes des Kigalois. Dans tous les coins de cette ville, la carte de couleur bleue est continuellement distribuée dans différents points de vente. Ne pas avoir cette carte nécessite de recourir à d'autres moyens de transport, des fois coûteux. Gilbert, un habitant de Kigali, s'est décrit que la valeur de la carte à puce.
C'est devenu une habitude de posséder cette carte. Ne pas l'avoir vous met dans un certain embarras. Cela veut tout simplement dire qu'on n'est pas prêt à voyager. Toutefois, il est possible de donner de l'argent liquide à quelqu'un pour ensuite utiliser sa carte.
Depuis que la carte a envahi le marché, c'est le chauffeur lui-même qui doit appeler les passagers. Le convoyeur qui le faisait jadis a perdu son emploi. Et ceci commence à provoquer une colère chez les chauffeurs qui ont une double charge de travail. À la gare routière du centre-ville, un chauffeur de bus a bien voulu s'exprimer, mais en gardant l'anonymat.
Ce sont nous les chauffeurs qui devons appeler les passagers, et cela parce qu'on ignore notre valeur. Imaginez une scène où un matin, tous les chauffeurs se révolteraient, même si chez nous, la grève n'existe pas. 2 heures suffiraient pour que les compagnies fassent faillite.
Remplacer le convoyeur de taxi ou de bus par une carte montrerait l'avancée technologique que le Rwanda dit vouloir mener dans tous les secteurs de la vie du pays. Mais selon l'Office rwandais des régulations, une autre raison a poussé à l'usage de la carte. Asaba Katabarwa, chargé de transport au sein de cet office.
Avant, il y avait une certaine complicité entre le chauffeur et son convoyeur. On constatait une grande fuite de revenus. Cela empêchait les propriétaires de bus de payer les dettes à la banque, de payer les taxes ou de remplacer les véhicules usés.
Si le Rwanda promeut des initiatives technologiques, certains ont vite compris comment en profiter. Patrick Buchana, 26 ans, est le directeur général de AC Group, la compagnie qui a introduit la carte à puce dans les transports publics. Les points de vente ou de recharge de la carte ne sont pas assez répandus dans la ville, ce qui pousse Patrick et sa compagnie à penser à des moyens davantage numérisés.
Avec 1 million de clients à notre disposition, nous ne pouvons pas avoir des points de vente partout. Mais avec le paiement mobile, vous n'avez pas besoin de vous déplacer dans une agence. Quand vous payez de cette manière, vous pouvez utiliser rapidement votre carte. Notez bien que très vite, nous aurons mis en place le système de paiement mobile.
Cependant, si certains se félicitent d'une réussite, d'autres maudissent le système établi. Ils sont plus de 700 personnes, anciens convoyeurs, à avoir été réduits au chômage avec l'introduction du tap and go card. Anastase, chef de famille de 5 enfants, dans son ancien uniforme de convoyeur, est allé se familiariser avec un autre monde, la mécanique automobile.
Ce système n'a rien de bien, il nous a arraché notre gagne-pain. Dans notre compagnie, on était plus de 200, tous ont perdu leur boulot. En plus, ce système ne profite qu'à une seule personne.
Anastase s'est frayé un chemin dans un garage, mais d'autres restent désœuvrés, ce qui pousse certains d'entre eux dans la délinquance ou vers d'autres pratiques illicites.
C'est une source d'insécurité, notamment parmi les plus jeunes. Tout le monde n'arrive pas à maîtriser la situation après avoir perdu son boulot. Ils se lancent dans le vol de téléphones portables ou s'attaquent aux véhicules pour arracher des radios.
Côté gouvernement, ce défi est connu et certaines mesures sont déjà en place. Oui, Hangagne Jean de Dieu, secrétaire d'État au ministère des Infrastructures chargé du transport.
C'est ce qui se passe quand on entre dans l'économie, on dit l'économie digitale. Mais il y a aussi des autres occasions d'emploi qui se créent. Par exemple, parce qu'on a beaucoup de gens qui vont aider à activer, mettre l'argent dans la carte. Les agents des cartes, et ça, il y en a beaucoup, ça s'est créé.
Pour le moment, le nouveau système ne couvre que la capitale Kigali. Mais selon l'Office des régulations, les autres parties du pays verront la carte au fur et à mesure de la modernisation du réseau routier des villes secondaires. Étienne Gatanazi à Kigali pour la Deutsche Welle.
L'année 2017 marque le 50e anniversaire de l'occupation israélienne de la bande de Gaza et de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est. Il s'agit de l'occupation la plus longue de l'histoire récente. Pendant 5 décennies, le peuple palestinien a dû faire face au recul du développement, à l'amoindrissement du potentiel humain et au déni du droit de l'homme fondamental qu'est le droit au développement. Difficulté dont on ne voit pas la fin.
Vous aurez sans doute reconnu la voix de Mireille Drone. Elle a lu un extrait du rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la CNUSED, consacré à l'économie des territoires palestiniens occupés, qui désigne la bande de Gaza et la Cisjordanie et également Jérusalem-Est. Retour en arrière, le 22 novembre 1967, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la résolution 242 appelant au retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés. Et aujourd'hui, environ 400 000 colons israéliens mènent une existence souvent conflictuelle avec 2,6 millions de Palestiniens en Cisjordanie. Les colonies israéliennes en territoire occupé sont considérées comme illégales au regard du droit international. Ces derniers jours, la polémique a aussi enflé autour de la possible publication par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU d'une liste d'entreprises implantées dans les colonies. Selon le journal Haaretz, des entreprises américaines mais aussi allemandes seraient concernées alors qu'elles violeraient le droit international et les États-Unis comme le gouvernement israélien tenteraient d'en empêcher la parution. Le rapport de la CNUSED est accablant. Depuis l'adoption des accords d'Oslo en 1995, le PIB par habitant a baissé de 23% dans la bande de Gaza. La Palestine, qui désigne le territoire dirigé par l'autorité palestinienne, est toujours en situation de grande dépendance vis-à-vis de l'État hébreu. En 2016, la moitié de son commerce extérieur s'est fait avec Israël, alors qu'elle ne représente que 3% du commerce international de Tel Aviv. En cause, l'occupation, qui selon Mahmoud Al-Khalif, de la CNUSED a un énorme impact sur des secteurs essentiels.
En 1955, l'agriculture représentait 28% de l'économie palestinienne. En 2016, ce n'était plus que 3%. Le secteur industriel, lui, représentait en 1990 20% du PIB, quand l'an dernier, il ne pesait plus que 12%. Ces secteurs productifs ont énormément régressé, de manière systématique et continue. Et cette faible production a forcé à importer, en particulier, des produits d'Israël.
Selon le rapport, les producteurs agricoles palestiniens doivent faire face à une concurrence injuste. Les importations d'Israël et des colonies sont subventionnées à hauteur d'environ 500 millions de dollars par an. De plus, à peine 20% des terres cultivables sont utilisées et la quasi-totalité n'est pas irriguée, freinant la productivité des territoires. Et en 2016, plus de 1500 oliviers palestiniens ont été mutilés ou déracinés par des colons. Selon l'ONU, près des 2/3 du territoire cisjordanien est sous le contrôle d'Israël et reste inaccessible aux producteurs palestiniens. Alors même que, selon le texte, il renferme des ressources naturelles et représenterait un potentiel de création d'emplois dans l'agriculture, le tourisme, l'industrie cosmétique, le bâtiment et les travaux publics. Les conséquences sociales de cette situation sont évidentes pour l'organisation onusienne.
Le taux de chômage est extrêmement élevé. Dans les territoires occupés, il représente 27% de la population. Et en fait, à Gaza, il atteint 42%. Mais ces chiffres peuvent être trompeurs, car en réalité, il y a très peu de personnes qui sont activement sur le marché du travail. Si vous regardez la situation des jeunes âgés de 15 à 29 ans, la situation est alarmante. L'an dernier, le taux de chômage des jeunes atteignait 27% en Cisjordanie et 56% à Gaza. Et ces taux ne tiennent pas compte des 60% de jeunes de cette catégorie d'âge qui sont découragés. Ils ont quitté le marché du travail et ne recherchent plus d'emploi car ils ne peuvent pas en trouver. Et si la situation semble un peu meilleure en Cisjordanie, c'est seulement parce qu'Israël autorise des employés palestiniens à travailler dans les colonies. Mais leurs conditions de travail sont très mauvaises, sans assurance sociale.
En 2016, le taux de chômage des femmes atteignait 45% et même 85% à Gaza. Cette situation vient s'ajouter aux privations d'eau et d'électricité dont souffre la population palestinienne. Une grande partie a besoin d'aide humanitaire. En 2015, déjà, la CNUSED alertait sur la situation des habitants de la région. Et il est plus que temps d'agir, s'indigne Mahmoud Al-Khalif.
Ce que nous disons en tant que Nations Unies, c'est que cette situation n'est pas vivable. En 2015, nous disions dans un rapport que pour faire de Gaza un lieu vivable en 2020, il fallait faire d'énormes efforts. Et la communauté internationale doit aussi aider les Palestiniens. Nous alertons, nous tirons la sonnette d'alarme pour qu'il y ait un impact sur la situation socio-économique des territoires occupés. Et cet impact ne se limiterait pas à cette zone, mais toucherait tous les pays de la région.
L'ONU rappelle que seule la moitié des 3,5 milliards de dollars promis à la bande de Gaza lors de la conférence du Caire sur la Palestine en 2014 ont été rassemblés. La communauté internationale doit assumer la responsabilité qui lui incombe de venir en aide au peuple palestinien, ne serait-ce que pour éviter une catastrophe humanitaire, conclut la CNUSED. Si vous voulez réentendre ce magazine Économie et Développement, allez sur notre site dw.com/français, rubrique Médiathèque. Merci pour votre écoute, au revoir et à la semaine prochaine.